Le crash avait fait 228 victimes. Un homme de 21 ans, originaire de Gennevilliers, interpellé et placé en garde à vue après la mort d'un adolescent ce week-end à Asnières. Il pourrait être l'auteur du coup de couteau mortel. La justice irlandaise autorise l'extradition de Ian Bailey dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Sophie Toscan du Plantier en 96. La défense du suspect a quelques jours pour faire appel de cette décision. Et puis un mot de football pour terminer. Le choc des quarts de finale de la Ligue des champions de football opposera Chelsea à Manchester United.
La Russie doit être sans Poutine. Russie sans Poutine.
Nous autres. Zoé Varier.
Moscou, janvier 2011. Racisme, xénophobie, opposition réprimée, journaliste tabassé, assassiné.
Mais on
ne vit pas dans un pays démocratique. Donc pour nous, c'est normal.
Nous autres,
une série d'émissions exceptionnelles
ce soir
à Moscou.
À partir de 20h.
France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter. Je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Je suis en colère quand j'entends les personnes en charge de la sécurité nucléaire en France dire que Tchernobyl est moins grave qu'un tsunami. Un tsunami dévaste une région et quelques années après, il est possible de vivre dans cette région. La région de Tchernobyl est contaminée pour des siècles. Et la catastrophe de Tchernobyl est comme un arbre qui pousse, car la radioactivité absorbée par la nature va progressivement se retrouver dans nos assiettes. Pourquoi faut-il cacher cela ? Pourquoi cacher la réalité des personnes qui survivent dans ces zones ? Y a-t-il un enjeu plus important que la vie elle-même ? D'autre part, j'entends aussi, on ne fait pas des centrales nucléaires pour le plaisir, mais pour répondre à un besoin. Mais pourquoi EDF et le gouvernement français ont-ils créé le besoin, notamment en assistant au chauffage électrique qui était une ineptie énergétique ? Il existe des scénarios tout à fait sérieux de sortie du nucléaire. Mais n'attendons pas que le gouvernement fasse ce choix pour nous. Nous pouvons faire quelque chose, car c'est nous qui sommes accros à l'énergie pas chère. Alors quoi faire ? Nous pouvons nous poser la question suivante. Que puis-je ne pas faire ? C'est un Japonais, Masanobu Fukuoka, qui a dédié sa vie à cette question et a réussi à faire pousser, non, à laisser pousser, des légumes et des céréales en ne faisant presque rien. Chacun dans notre domaine et dans notre vie quotidienne, nous pouvons nous poser la même question. Que puis-je ne pas faire ? Ou comment faire en dépensant le moins d'énergie possible ? Nous pouvons trouver des réponses, aussi minimes fussent-elles, et arrêter de nourrir le monstre qui nous dévore. Bonne journée à tous. Vincent de Besançon.
ラフランのために感染だと共有した人生の一場面に待合室みたいな気分にさせるホスピスに久しぶりの友達みたいな話は尽きずに傷ついた体リングにしがみつきながら辛い顔は一度見せずに奴は笑った俺も奴のお母さんも一緒になって笑ったどこまで悪いのか俺には分からなかった痛いほど分かってたであろうことは後になって分かったがいいか全ては気持ちからだからなそう繰り返ししかないしがない俺の言葉は無力だ
経験不足なあなの空いた封筒だ。だけどなあん時言ったことは嘘じゃない。曲を作ろうな、札幌でまた一緒に遊ぼうな。好きな女や音楽と二人きりでいるとな。あれから時の流れがまるで速くなったような。錯覚に焦ってた目に見えないスピードな。ベルトコンベアに俺たちは乗せられてたとさ。経験というパーツを一生かかって集め、近づけるところまでポストクラッシュを歩け。ラフラン最後にこう教えたはずで、いつも思うと生きる気力と儚さが増すぜ。
Bonjour à tous, joyeux futurs irradiés. Je voudrais vous rappeler un petit peu, si vous ne vous en rappelez pas, les petits bonshommes qui couraient partout à Tchernobyl, qu'on appelait liquidateurs. C'était en général des bidas ou des réservistes qui faisaient faire leur petit tour avec leur petit seau, leur petit tablier, leur petit capuchon, pour essayer de nettoyer le grand merdier que laissait l'industrie nucléaire. Et bien maintenant, là-bas, au Japon, il y a des mecs, des prolos, qui sont en train d'en baver pour essayer d'arrêter le dégât que les actionnaires ont produit. Essayez donc d'imaginer un petit peu tous les actionnaires de TEPCO, les uns à la queue leu-leu avec leur petit seau d'eau, en train d'apporter un seau d'eau par action détenue pour essayer de refroidir tout le bordel qu'ils ont mis. Ça serait quand même rigolo. Ça serait un petit peu plus rigolo que le monde tel qu'ils nous le font, où c'est toujours les petits prolos qui coinchent et les actionnaires qui encaissent. Voilà. C'était Pierre à Onfréville.
Le Premier ministre l'a promis, il n'éludera aucune des questions posées par les députés. Mais avant, chacun dans l'Assemblée observe une minute de silence en hommage aux victimes du séisme du Japon.
BFM TV, 15 mars 2011.
Conséquence de la catastrophe japonaise, il y aura aussi des contrôles sur les centrales nucléaires françaises.
Les démonstrations de sûreté de chaque centrale en France seront contrôlés à la lumière des enseignements tirés par la catastrophe de Fukushima, et les résultats de ces contrôles seront rendus intégralement publics.
Oui, bonjour à tous. Moi, je voulais apporter un petit témoignage là, concernant le nucléaire. J'habite un village au-dessus de la centrale nucléaire de Saint-Maurice-l'Exil. C'est un petit peu plus au nord que Pierrelatte, c'est pas très loin. À vol d'oiseau, ça doit être à peu près 30 km. On est à moins de 10 km à vol d'oiseau, voilà. Donc en tant que riverain, parce qu'on se considère riverain, on n'habite pas la commune de la centrale, mais on est quand même dans un rayon proche, donc on leur a téléphoné. On s'est constitué en association et on leur a téléphoné pour essayer de rencontrer quelqu'un qui pourrait nous renseigner sur la sécurité et qui serait à même de nous éclairer, c'est le cas de le dire, ouais, sur les différents problèmes en cas de problème, quoi. Eh bien non, il n'a pas été possible d'avoir quelqu'un ni d'obtenir un rendez-vous. Voilà, c'est pas possible. La secrétaire que nous avons eue au téléphone nous a ri au nez en nous précisant que nous ne risquions absolument rien, qu'il y avait des pastilles d'iode qui étaient normalement dans toutes les pharmacies des riverains situées autour de la centrale et dans un rayon de 30 km et que cela suffisait. Et il n'est pas possible d'avoir d'autres informations pour l'instant. Voilà, alors... Bonjour, la transparence, hein, dur, dur. Bon courage à tous, hein, serrons-nous les coudes, je crois qu'on va en avoir besoin. Allez, ciao.
De Olivier de Mios, la perle de la semaine de Laurence Parisot, dit-elle ce matin à 9h30, tout ceci tombe très mal en ce qui concerne la catastrophe du Japon. Je lui réponds, tu crois Laurence? Non mais franchement, il y en a, ils n'ont pas honte. Allez, au revoir.
Comme... un lapin dans la lumière des phares. Nous sommes paralysés, immobiles, pétrifiés, sidérés et sans doute gravement contaminés par une masse d'images, de mots, de mensonges, de langues de bois qui nous parvient et qui nous pétrifie et qui nous sidère et qui nous paralyse et qui sans doute nous contamine comme des lapins dans la lumière des phares, mais avec une oreille dressée quand même. Une oreille dressée sur France Inter, une oreille dressée sur la basse et j'y suis, et voilà ce que ça donne dans le répondeur de la basse et j'y suis. vos messages, vos inquiétudes, vos idées, vos rigolades, vos ironies, vos grands messages, vos renseignements généreux, parfois très perspicaces, et qui sont un écho de ces heures que nous vivons, les yeux braqués comme des lapins dans la lumière des phares d'une télé qui vacille.
Bonjour toute l'équipe, magnifique reportage émission sur le nucléaire d'aujourd'hui. Et dans le prolongement donc de ce reportage à Tricastin, cette information, le collectif antinucléaire 84 organise un rassemblement devant la centrale nucléaire de Tricastin samedi 19 mars à 14h. Et le collectif antinucléaire Bouches-du-Rhône organise le même jour, samedi 19 mars à 15h au Réformé, un rassemblement aussi pour exiger l'arrêt immédiat inconditionnel du nucléaire en France et partout. Nucléaire civil ou nucléaire militaire, et sans discuter sur la durée, sur le quand, le comment, le pourquoi autour d'une table, il est temps de mettre un terme à cette saloperie et de mettre un terme à la terreur que fait régner sur les populations le lobby nucléaire. À bientôt.
Salut Daniel, j'appelle pour faire un petit décryptage des mensonges médiatiques. Pour ça, je voulais faire un petit parallèle entre la grippe aviaire et le nucléaire. Dans le premier cas, on s'en souvient tous, hein, les médias nous faisaient paniquer, c'était la panique, on allait tous crever d'une petite grippette si on se faisait pas vacciner illico presto. Alors que là, dans le cas d'une usine nucléaire, tout va bien, la radioactivité c'est naturel, on est tous un peu radioactifs, il n'y a pas de problème, la vie continue. On a trouvé ça marrant. Dans un cas comme dans l'autre, de là en conclure que les médias sont soumis au lobby, un des labos pour nous faire acheter des pilules, et de l'autre du nucléaire pour nous rassurer au contraire, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, c'était tout. Merci, allez, au revoir.
Oui, bonjour, Elisabeth de Strasbourg. C'était juste pour vous faire part de mon mécontentement, s'il vous plaît. Voilà. Alors, depuis qu'il y a le problème à la centrale nucléaire au Japon, alors évidemment, on les entend beaucoup, les antinucléaires. Hein. À ce que je sache, le Parti communiste et beaucoup de gens de gauche ont voté pour le PR, ils étaient d'accord. Et maintenant, puisqu'il y a le problème au Japon, ça y est, on commence à faire tout un tas de pataquès contre le nucléaire. Moi, je n'ai jamais été ni pour ni contre. Ce que je demande, c'est que les centrales nucléaires soient surveillées de près et qu'on évite des catastrophes telles au Japon. Maintenant, si on supprime le nucléaire, j'aimerais bien savoir par quoi on va le remplacer. Voilà, c'est tout. Merci.
Oui, bonjour. J'appelle juste pour vous dire que je trouve cette émission sur Tricastin relativement indécente actuellement. Je suis vraiment pas favorable au nucléaire, mais en l'occurrence, je trouve que ce côté inquiétant que vous passe au Japon, que les gens en ont assez sur le dos, et ça serait bien d'aborder les sujets différemment. Merci, au revoir.
Oui, salut toute l'équipe de là-bas. Alors j'ai lu un petit article dans Libération ce matin et puis j'arrête pas de rigoler depuis que j'y pense. C'est l'éditorial de Nicolas Demorand. Voilà, l'éditorial Nicolas Demorand, un petit nouveau à Libération, et c'est Libé du week-end dernier, du 12 et du 13. Alors dans son édito, je vous le lis, ailleurs qu'au Japon, blablabla, les choses auraient été bien pires. Qu'on se souvienne des 250 000 morts d'Haïti il y a un an. Preuve que le développement économique est encore la meilleure arme pour limiter les conséquences d'un séisme. Preuve que le développement économique est encore la meilleure arme pour limiter les conséquences d'un séisme. Ah, il a l'air bien drôle, c'est Nicolas Demorand. Ciao, à bientôt.
Avec ses 19 centrales et ses 59 réacteurs, la France est le deuxième pays le plus nucléarisé au monde,
Itélé,
derrière les États-Unis et devant le Japon.
16 mars 2011.
Pourtant, ces centrales sont bien différentes des installations nippones, car elles ne dépendent que d'une seule filière, une technologie homogène.
Tout est standardisé.
Jean-Marc Sylvestre.
C'est-à-dire que si vous avez un défaut de sécurité qui apparaît dans une centrale, vous pouvez corriger ce défaut potentiel dans toutes les centrales à la fois. Le parc nucléaire japonais est beaucoup plus hétéroclite, il n'est pas homogène.
Une industrie de pointe, mais une industrie dont la France est extrêmement dépendante. Près de 70% de son électricité provient du nucléaire. Alors forcément, une catastrophe comme celle du Japon relance le débat. Pour autant, la France peut-elle se passer du nucléaire ?
Elle pourrait éventuellement se passer du nucléaire, à condition d'accepter de s'éclairer à la bougie, d'arrêter ses usines, de revenir au Moyen Âge. Elle pourrait éventuellement se passer du nucléaire, à condition d'accepter de s'éclairer à la bougie, d'arrêter ses usines, de revenir au Moyen Âge.
On n'a pas de pétrole, mais on a des milliardaires, des Dassault, des Bolloré, des Bouygues, des Lagardères. On n'a pas de pétrole, mais on a du nucléaire, et sur l'échiquier mondial, il gère bien nos affaires. On n'a pas de pétrole, mais on a des milliardaires, des Dassault, des Bolloré, des Bouygues, des Lagardères. On n'a pas de pétrole, mais on a du nucléaire, et sur l'échiquier mondial, il gère bien nos affaires. La France n'a pas de pétrole, mais a des idées. La première est de prendre Sarkozy et de l'installer. Areva, Areva, dis-moi où tu vas. Areva, dis-moi où tu combats. Moi j'ai entendu dire que l'uranium était une des valeurs montantes de l'État français. Puis j'ai vérifié que le deutérium tritium était pour leur pouvoir encore plus coté. Demande au Niger ce qu'ils pensent d'Areva, du pillage de leur sol aux coûts les plus bas. Et elle demande leur aussi leurs conditions de travail dans les mines d'uranium qui rapportent autant de mailles. Une thématique de plus dans mon œuf populaire, sur la liste noire des médias payés par leur enfer. L'État français a tellement de casseroles au cul qu'on pourrait faire à bouffer pour le monde entier.
On n'a pas de pétrole, mais on a des milliardaires, des Dassault, des Bolloré, des Bouygues, des Lagardères. On n'a pas de pétrole, mais on a du nucléaire, et sur l'échiquier mondial, il gère bien nos affaires. On n'a pas de pétrole, mais on a des milliardaires, des Dassault, des Bolloré, des Bouygues, des Lagardères. On n'a pas de pétrole, mais on a du nucléaire, et sur l'échiquier mondial, il gère bien nos affaires.
De l'Afrique à la Chine, on n'a pas de pétrole, mais des deals bien cachés qui enrichissent notre PNB. On n'a pas de pétrole, mais on a des portables. Demande au Congo ce que veut dire coltan. À 50 000 euros le kilo, des millions de morts au Congo. Orange et ses fers Bouygues ont une part dans ce chaos. Yeah, on n'a pas de pétrole, mais des putains d'idées pour rester une puissance mondiale sur l'échiquier. On nous parle de vin, de fromage, de terroir, mais jamais des dossiers cachés au fond des tiroirs. Total en Irak, Technip au Nigeria. Quand la corruption bat son plein soutenu par l'État. Mettre son nez dans Elf, c'est mettre son nez dans les goumas des élites de notre France, chez notre mère Africa. Ce n'est qu'un titre de plus qui tombera dans l'oubli, mais au moins il y aura eu crédit d'avoir été écrit.
On n'a pas de pétrole, mais on a des milliardaires, des Dassault, des Bolloré, des Bouygues, des Lagardères. On n'a pas de pétrole, mais on a du nucléaire, et sur l'échiquier mondial, il gère bien nos affaires. On n'a pas de pétrole, mais on a des milliardaires, des Dassault, des Bolloré, des Bouygues, des Lagardères. On n'a pas de pétrole, mais on a du nucléaire, et sur l'échiquier mondial, il gère bien nos affaires.
Bonjour, c'est Alain de Toulouse. Je voulais laisser un message par rapport à la centrale de Golfech. Voilà. À l'époque où elle a été construite, ma tante était à la mairie de la Magistère, elle était au conseil municipal de la Magistère. Et à l'époque, tout le monde était vent debout contre la centrale, tous les villages alentours. Dont Valence d'Agen en tête, avec Madame Bailey, directrice de la dépêche à l'époque, et maire de Valence d'Agen, et tout le monde était contre la centrale. Voilà. Mais, oh miracle, du jour au lendemain, l'EDF est passé par là. Ils ont fait un petit chèque à toutes les mairies, je peux vous dire, même la Magistère. D'ailleurs, vous pouvez aller faire un tour. Vous allez voir dans tous les villages, ils ont piscine, tennis, tout payé par l'EDF. Bien sûr, ils étaient dans l'œil du cyclone, ils étaient 32 km dans le, autour de la centrale. Et voilà le miracle, comment on peut faire tourner le vent. Et bien sûr, on a embaillé toutes les mairies. On a accepté le nucléaire, voilà, comme la dangerosité est devenue. Bien sûr, il n'y en avait plus. Un coup de chèque, voilà comment le vent peut tourner.
Voilà comment ça bouge dans le répondeur de la basse où j'y suis, dans la boîte vocale de la basse où j'y suis. Vous imaginez les quantités de messages. On va le voir pas seulement, évidemment, sur ce qui se passe au Japon et qui suscite des échos, qui renvoient à Tchernobyl, bien évidemment, puisque ça va être le 25e anniversaire de Tchernobyl en le 26 avril prochain. Bon, donc, il y a un retour et puis il y a cette inquiétude qui est la nôtre, heureux habitants d'un des pays les plus nucléarisés au monde, que ce soit au plan civil comme au plan militaire. Un jour, il faudra raconter, on le fera dans les prochains numéros de Là-bas si j'y suis, le lien qui existe chez nous entre les deux et à quel moment les décisions ont été prises, car évidemment, toute le nucléaire chez nous a une histoire, et une histoire politique qu'on ne peut évidemment ignorer. Donc voilà quelques-uns des messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de Là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Je vous appelle pour vous faire part de deux petites analyses sur la catastrophe japonaise. La première est la suivante. Au moment où on inonde les réacteurs en eau de mer, on les tue définitivement. Il n'est pas imaginable qu'une centrale qui aura été inondée puisse jamais être remise en service. Alors, si l'exploitant a tardé en quelques heures, au moment de la crise, à inonder ces centrales, ne serait-ce pas parce qu'ils ont une attitude parfaitement libérale, il n'avait pas eu le temps de contrôler ses contrats d'assurance et de vérifier que son assurance machine-outil le couvrait bien pour ce type de risque. Secondement, si on attend pour refroidir la masse, avez-vous déjà vu ce qu'est le point de burn-out en boiling? Le burn-out, c'est ce qui se produit quand vous avez une goutte d'eau qui circule sur un poêle sans évaporer. En d'autres termes, si la masse devient trop chaude à refroidir par de l'eau, l'eau n'arrive plus à toucher la masse à refroidir et se met en contact avec la masse par un fin film de vapeur qui joue un rôle d'isolant et qui fait que l'eau se met à très mal refroidir. Donc, plus la masse est chaude, plus elle devient difficile à refroidir. Vous avez un retournement de la courbe, le transfert de chaleur qui augmentait au début avec la différence de température, l'odeur du point de burn-out diminue de façon catastrophique. Et voilà le type de problème auquel les Japonais sont confrontés aujourd'hui. Et c'est un problème qui a été noté aussi dans l'accident de Tchernobyl. C'était un tout petit coucou que je vous donnais.
Bonjour, c'est un hasard parce que c'est programmé depuis très longtemps. Le Cabaret de l'Union à Roubaix propose un film qui s'intitule « Nucléaire, des salariés très exposés ». C'est un film de Alain Dehalleux. Ce film donne la parole aux ouvriers du nucléaire français, on les appelle les jumpers. Ils sont chargés d'entrer dans le générateur de vapeur pour obturer les tuyaux qui relient le réacteur nucléaire. Séjour maximum autorisé de 90 à 120 secondes. Bref, ce film leur donne la parole. Vendredi 18 mars, ce soir, « Nucléaire, des salariés très exposés », au théâtre Pierre de Roubaix, 78 boulevard de Belfort, à Roubaix. Merci, c'était Bernard de Lille.
Un gars qui rentre dans la mer la première fois, il a envie de retourner chez sa mère. Tellement il a peur.
Depuis tout petit, bon, je rêvais d'être décontamineur, je sais pas pourquoi. C'était peut-être le mot, ça faisait un peu comme négociateur, ou je sais pas pourquoi.
L'intervention doit être le plus court possible. Entre 1 minute 30 et 2 minutes, pas plus.
C'est pas un jeu de mots que je suis en train de faire, quoi. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que tous les jours, il puisse se passer des choses choquantes, quoi. Et que ça choque personne, quoi.
Je me rappelle de mon directeur qui me disait, mais maintenant, on va passer d'un risque zéro à un risque calculé. Je pense qu'ils oublient qu'on travaille dans une société nucléaire et que le risque calculé ne peut pas exister.
Yeah, il avait 25 ans à l'époque, une femme qu'il aimait, t'as fait comme ouvrier, mais ça lui suffisait. Père depuis peu, à vrai dire, mars 86, une petite Ilona de 3,6 kg. Igor avait la santé, Dieu lui avait donné l'amour, donc Igor était comblé. Ce jour-là était un samedi d'avril, belle journée, à quelques kilomètres de Tchernobyl. Igor aimait marcher dans le parc, profiter de sa famille, car en semaine il rentrait tard. Mais sur le chemin du parc, l'atmosphère était étrange et la rumeur naissante. La nouvelle était inquiétante et la peur devenait émergente. Le réacteur numéro 4 de la centrale aurait pris feu. Igor dit à sa femme qu'il valait mieux rentrer chez eux. À la maison, vite, il la verra Ilona. Igor alluma la radio et le téléphone sonna, sonna, sonna.
Quand la vie n'est plus une excuse, ils ont envoyé des hommes à la mort. Car la vie n'était plus une excuse, mais comment accorder le pardon?
Igor décrocha le téléphone, c'était son patron. Une fallait du monde au réacteur, pas le droit de dire non. De plus, en aidant à contenir l'incendie, l'État serait reconnaissant pour lui et sa famille. Sur les lieux, les recommandations furent claires. Pas plus de 90 secondes au sein du réacteur. Igor travailla sans relâche durant 5 heures, puis fut interrompu par de violents hauts de cœur. Les radiations, ennemis invisibles, et même en 90 secondes, le pire était prévisible. Au haut de cœur s'ajoutèrent douleurs et mal de tête. Igor fut évacué dans la soirée du 27. Il rentra chez lui, appris par la presse que le feu fut maîtrisé. Seulement le mal de tête revenait sans cesse, et ça, personne n'en parlait dans la presse.
Quand la vie n'est plus une excuse, ils ont envoyé des hommes à la mort. Car la vie n'était plus une excuse, mais comment accorder le pardon?
Oui, bonjour à tous. Je pense que vu les nouvelles, on peut pas faire grand-chose contre un réacteur devenu fou, mais on doit faire quelque chose contre un fou qui devient réactionnaire. C'était Sébastien dans le Morbihan.
Oui, bonjour. Je viens d'écouter l'émission sur Tchernobyl, là, et j'avais envie de conseiller à tous les auditeurs de là-bas si j'y suis de lire un livre magnifique qui s'appelle La Supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse, d'une journaliste, Alexievitch. C'est un livre extraordinaire de messages de gens qui ont vécu Tchernobyl. À bientôt, au revoir.
Voilà, bonjour Daniel. Une petite chanson que j'ai retrouvée de Woody Guthrie dans les années 60. Dans les jours qui vont venir, n'allez pas vous endormir, car vous allez voir de drôles de choses, venues du ciel jusqu'à ici-bas. Des maisons suspendues en l'air, des champs de glaïeuls nucléaires. Mais il y a une chose que l'atome ne fait pas, il y a une chose que l'atome ne fait pas, il ne pourra jamais t'embrasser quand tes lèvres sont mouillées. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Prends ta voiture atomique et pars le week-end pour un pique-nique. Amène ta baguette de camembert du 12 degrés nucléaire. Mais quand les lèvres de ta petite amie commencent à se mouiller, elle te dira « Chérie, il y a une chose que l'atome ne fait pas. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Il ne pourra jamais t'embrasser quand tes lèvres sont mouillées. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. » Et les docteurs en atomicité qui travaillent à l'université, tu peux les prendre et de ma part, va les voir, va leur demander. Tu veux savoir la vérité? S'il y a une chose que l'atome ne peut pas, il y a une chose que l'atome ne peut pas. Il ne pourra jamais t'embrasser quand tes lèvres sont mouillées. Il y a une chose que l'atome ne peut pas. Et le jour où je vais me marier, les cloches nucléaires peuvent bien sonner. Chez moi, les chansons nucléaires seront toujours les bienvenues. Mais après la soupe et les cérémonies, tout sera fini. Il y a une chose où l'atome sera perdu. Il y a une chose que l'atome ne peut pas. Il ne pourra jamais t'embrasser. Il ne pourra jamais te caresser. Il ne pourra jamais t'embrasser quand tes lèvres sont mouillées. Voilà. Merci Woody Guthrie. C'était au début du nucléaire en Amérique. Voilà.
This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, I tell made for you and me. As I went walking down that ribbon of a highway, I saw the meek of that endless skyway. Now I saw below me that golden light.
for you and me. This land is your land.
Bonjour, c'est Ramdan. L'actualité japonaise faite du tsunami passé, du nucléaire à venir, arrange les affaires des dictatures et des mafias politiques dans le sud de la Méditerranée, peut-être un peu ailleurs aussi. On parle bien sûr un peu de Kadhafi, des morts de Bahreïn, mais pas assez. Et surtout pas, plus du tout, du combat en cours en Algérie, essentiel pourtant pour tout le monde afro-méditerranéen. Alors, il reste les 2 minutes de là-bas si j'y suis. Là-bas, cette semaine, ce samedi, demain, c'est à la place de la République, à 14h, où nous vous invitons pour appuyer la CNCD, la Convention pour le changement et la démocratie en Algérie. Les mots d'ordre sont « changement et démocratie en Algérie », levée effective de l'état de siège, ouverture des champs politiques et médiatiques, abrogation du code de la famille, je pense que vous savez ce que c'est, condition de la femme en Algérie, et un statut constitutionnel digne pour l'identité et la langue berbère des Mazirtes. Samedi 19 mars, 14h, place de la République à Paris. Merci.
Vos messages de la semaine, et même davantage d'ailleurs, dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, on va parler un peu d'autre chose, écouter d'autres messages que vous avez laissés par rapport à la catastrophe japonaise, mais on peut quand même rappeler que le rafistolage de Tchernobyl continue de coûter pas mal de sous. 25 ans après, il faut remplacer le sarcophage provisoire en béton par un sarcophage définitif qui devrait, on l'espère, tenir 100 ans, après quoi ben, on verra bien. Tout ça va coûter autour de 2 milliards d'euros, et il manque encore 750 millions d'euros. Alors rassurez-vous, on ne va pas vous demander de l'argent, parce que c'est la France qui est aux manettes, et ce sont deux géants français du béton, Bouygues et Vinci, qui ont, on est très fiers, Cocorico, remporté le contrat. C'était une petite brève du Canard Enchaîné, dans le Canard Enchaîné de cette semaine, et puis quelque chose qui donnera peut-être de l'espoir à nos amis japonais, si dignes, on craque devant la dignité des Japonais, une façon de mourir dans la dignité qui est formidable, ça émeut tout le monde. Eh bien, le ministère ukrainien des situations d'urgence vient d'avoir une idée assez formidable, c'est de lancer dès cette année le tourisme de l'extrême, en Ukraine. Il s'agit d'offrir aux touristes la possibilité de visiter la zone de Tchernobyl, mais évidemment sur des routes à peu près sûres, si possible, à l'abri des rayonnements radioactifs. Voilà, c'était dans les Échos du 14 février. Et c'est des nouvelles quand même, somme toute, tout à fait rassurantes. En voici d'autres, relevées et entendues dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Je vais apprendre un truc. Alors, soit j'étais con, personne ne l'avait dit, mais le drapeau des révolutionnaires en Libye, c'est le drapeau de la monarchie. Voilà. Alors, bon, maintenant qu'on est parti en guerre, je vais juste apprendre ça. Voilà. J'étais le seul con pas au courant ou personne n'était oublié avec ou les autres non plus. Voilà, c'était Guillaume de Norvège.
Allô, bonjour tout le monde. C'est Gisèle de Montargis. Je m'aperçois qu'enfin, le méchant Kadhafi va nous rendre le pétrole. Déjà, pour lui sonner les cloches, le 15 avril 86 à 2h du matin, le gentil Reagan, avec l'aide de sa copine Thatcher, avait bombardé Tripoli et Benghazi avec 60 tonnes de munitions. Ça s'appelait l'opération Eldorado Canyon. Et puis en 2008, Bush et Kadhafi s'étaient rabibochés, dis donc. En 2011, Obama aura sa guerre. Hein. Il lui faut remplacer le pétrole qui est toujours au fond du golfe du Mexique. Sarko, lui, il aura son bomber et une casquette. Enfin bon, il sera l'égal de Bush. Comme en Irak, les droits de l'homme au service du pétrole. Mais ce qui est curieux, c'est qu'à Bahreïn, c'est l'inverse. Les manifestants et la confédération des syndicats qui demandaient une révision de la Constitution ont vu arriver 150 blindés. Ils venaient d'Arabie et autres inféodés énergétiques. Les États-Unis se montrent pas trop, là. Et bien, tout ça, c'est en défense du passage dans le détroit. Eh oui, là, on aide le pouvoir établi. Conclusion, le pétrole, ben, c'est politiquement neutre. C'est Gisèle de Montargis. Au revoir.
La rue n'appartient plus ni à Benalou, ni à cette opposition.
Révolution dans tous les pays du soleil, couper les pattes du trône qu'aucun dictateur ne s'y asseye sans métro. L'oppression soulève le couvercle, la couscoussière explose pour de nouvelles découvertes. Laissez-elle alikoum pour les peuples du Maghreb, tout le monde descend dans la rue, la haute, la plèbe. Dictature qui a fait trop couler de sang, l'injustice, un comportement trop indécent. Tant d'années à supporter, les journalistes qui doivent se taire, ou bien qui disparaissent derrière les barreaux de fer. La liberté d'expression n'est pas vraiment assurée, la pratique courante est plutôt de censurer. Les dictateurs ont le pouvoir mais marchent comme des crabes. Sachez que c'est maintenant la révolution arabe. Pas de peur au ventre, mais de nouvelles idées, tout doit changer. Je crois que l'exemple est donné par le peuple tunisien qui a engendré la marche. Chacun à votre tour emprunter la même démarche. Prima liberté Diana, un à un abatté. Les bustes de bronze, la décembre 2010, janvier 2011. Et l'histoire s'écrit sous nos yeux. Sami Hakim d'Ampère soutiennent les idées des peuples de la terre mêle.
La révolte des Tunisiens contre la précarité et les inégalités dure maintenant depuis 3 semaines. Le président, au pouvoir depuis 23 ans, s'est exprimé. Son discours n'a pas varié. Il parle d'actes terroristes.
Nous donnerons le nom de ce jeune Tunisien qui s'est immolé par le feu.
Mohamed Bouazizi.
Bon, Daniel et toute l'équipe, bien le bonjour, bien le bonsoir. Voilà, je t'appelle, il fait nuit sur Marseille, là, sur Plan de Cuc. Dimanche, il y a des élections cantonales, ici. C'est les dernières élections avant les présidentielles, comme beaucoup le savent, et que c'est pas rien. Alors, j'en appelle un peu à tous les auditrices et les auditeurs qui sont indécis. Il faut aller voter. Alors, bien sûr, pas voter pour des listes extrémistes, dont je tairai le nom, et qui sont en train de labourer large dans les travailleurs et dans les revendications sociales qui ont été porteuses de la saison dernière sur les retraites. Celle-là, il faut absolument pas y aller. Mais par contre, il y a des listes sur l'autre front, celui qui est de l'autre côté, qui réunit vraiment large sur Marseille particulièrement, puisque sur le centre de Marseille, ce front a réussi à réunir tous les partis qui sont à gauche et qui en appellent vraiment à une résonance pour l'avenir de la gauche. Il faut faire vibrer cette gauche. Alors tous les gens qui sont indécis, il faut aller voter dimanche et voter pour que cette gauche, on ne la laisse pas à une gauche molle, mais qu'on puisse la réveiller enfin et avoir un avenir un peu plus lumineux, un peu plus plein de gloire, de joie pour nos enfants et pour l'avenir de l'humanité entière. Allez, aïoli sur tout le monde, c'est Olivier de Marseille. À très bientôt, Daniel, et merci beaucoup pour ton émission.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Il y a précisément 140 ans commençait la Commune de Paris, qui se terminera 72 jours plus tard, dans le sang du peuple répandu par le pouvoir de M. Thiers. C'est une nouvelle occasion d'écouter à nouveau Jean Ferrat nous chantant la Commune. Nous pouvons en être sûrs, il reviendra le temps des cerises. C'était Charles du Lot-et-Garonne. Au revoir et à bientôt.
Il a une belle voix, Charles du Lot-et-Garonne, pour nous parler de la Commune. Et oui, c'est l'anniversaire de la Commune ces jours prochains. Et c'est une occasion pour tous de vous replonger dans cette glorieuse, très glorieuse histoire. Vraiment, l'exemple même de la victoire dans la défaite
que la Commune de Paris. Oui, une défaite, bien évidemment, pour le peuple, mais une victoire, puisque vous voyez, on en parle encore, et la Commune est une référence permanente de notre histoire, à nous, Français, Parisiens, Français, mais dans le monde entier, la Commune fait encore modèle. Et peut-être même jusqu'aux États-Unis actuellement, au Wisconsin, l'État du Wisconsin dans le nord des États-Unis, vous le savez peut-être, il y a une compétition de l'actualité qui fait que ben, y a des événements importants, même très importants, qui passent au dernier plan. C'est l'ordre et le hasard de l'actualité qui fait que nous négligeons un peu ce qui se passe dans cet État, mais dans d'autres aussi, des manifestations très ardentes, beaucoup de monde pour protester contre les décisions de certains gouverneurs, dont le gouverneur de Wisconsin, de couper les soutiens, les subventions aux syndicats. Et il y a cette poussée des Tea Party, de l'extrême droite, enfin de la droite conservatrice très dure aux États-Unis, qui ressemble tout à fait d'ailleurs à ce qui est en train d'arriver avec Marine Le Pen, et qui pousse à couper ses soutiens. Et les Américains, les États-Uniens sont en train de manifester. Ça ressemble assez à ce qui s'est passé en France au mois d'octobre. Oui, 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 renseignez-vous. Et c'est tout à fait étonnant. On a rencontré Noam Chomsky l'autre jour à Bruxelles. On a parlé de ça. Et ce qui est évidemment le rapprochement formidable, c'est que dans ces manifs, on fait référence à l'Égypte. On fait référence à ce qui se passe en Égypte. Comment aux États-Unis on se réfère à l'Égypte. L'entretien avec Noam Chomsky, on vous le fera entendre la semaine prochaine. Et puis une autre chose comme ça, relevée au hasard des dépêches, Serge Dassault, c'est le maire de Corbeil-Essonne, c'est le patron du Figaro, mais on oublie que Serge Dassault est tout simplement un marchand de canons, ce qu'on appelle un marchand de canons. Et comme on osait l'interroger sur le fait qu'il vendait des armes, du matériel militaire à la Libye, il a répondu, je cite, « Quand on vend du matériel, c'est pour que les clients s'en servent. »
Venez nombreux, vendredi 18 mars, entre 17h et 20h, place de l'Hôtel de Ville de Paris, célébrer le 140e anniversaire de la Commune et agir pour faire vivre sa mémoire, ses valeurs républicaines, sociales, révolutionnaires, patriotiques, démocratiques d'une extraordinaire modernité. Prenez connaissance sur le site commune1871.org du déroulement complet de la soirée et de toutes les initiatives organisées par les Amis de la Commune tout au long de l'année 2011. A bientôt et bien sûr, dès ce vendredi.
Ouais, ça fait quelques jours qu'avec Hélène, on avait envie de vous laisser un message parce que ce qu'on entend sur les télés et la radio, c'est affligeant. Et puis comme hier, il y a eu le message de la compagnie Jolimôme, j'ai juste envie de vous lire l'appel aux électeurs parisiens de la Commune de 1870, un appel du 25 mars 1871. Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Défiez-vous également des haut-parleurs incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront à tout, à un beau discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel. Évitez également ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Cherchez enfin des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste, et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes, et non à ceux-ci de se présenter. Citoyens, nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire, vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. Hôtel de Ville de Paris, 25 mars 1871, Comité central de la Garde nationale. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón, barricadas levantaremos como ayer la Confédération. Ciao viva, portez-vous bien, si vous le pouvez.
Oh. On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme un faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre, et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
La révolution latino-américaine débarque à Pau et dans 17 villes de l'Aquitaine du 18 mars au 2 avril avec le festival Rebelle Culture America. On y célébrera le Mexique de la révolution mexicaine, des Zapatistes, de Frida Kahlo, de Rivera, d'Octavio Paz. Et on y fera un bras d'honneur au petit président Sarkozy et Calderon, aux multinationales, à tous les affameurs et assassins de peuple. Pendant 15 jours se tiendra sur le campus un forum des alternatives pour d'autres mondes possibles autour des pays Salvador, Mexique, Venezuela, Bolivie, Chili, Équateur, etc. Les damnés de l'eau et les damnés de la terre qui sont les mêmes lèveront le poing ensemble. Les comuneros, chiliens de Caimanes, 81 jours de grève de la faim contre une multinationale qui empoisonne l'eau, seront là et clôtureront le festival à Emmaüs avec le groupe Sergent Garcia, des écrivains, du théâtre, des animations de rue, des expositions, des tours de chant. L'intégralité du programme est sur culturamerica.fr. Hasta la victoria siempre.
Voilà, merci pour ces messages et pardon pour les messages que nous n'avons pas la place de passer dans la basse si j'y suis chaque jour. Et merci de votre patience aussi, parce que c'est très rare qu'on ait des réclamations. Il y a des messages parfois superbes ou qui sont précieux, importants pour les uns ou pour les autres, pour des réunions, des manifs, des choses importantes et graves ou d'autres qui sont... Enfin, bon, on ne peut pas tous les passer. Les messages de la basse si j'y suis, c'est un choix. C'est-à-dire que nous choisissons les messages. Il n'y a pas d'objectivité. Aucune, absolument. Aucune là-dedans. Mais voilà ceux que nous avons trouvés dans la boîte vocale et que nous avons aimés ou qui nous ont émus ou qui nous ont intéressés à des titres divers ces jours derniers.
Bonjour, je vous appelle au sujet d'un conflit social qui passe vraiment à l'as, qui est rendu et tenu invisible. C'est celui de tout un groupe d'ex-salariés de la Generali Proximité Assurance, grosse boîte franco-italienne dont M. Bolloré est le numéro 2. Et il faut remonter à 2006 pour se rendre compte que, à la suite d'une vaste réforme de la rémunération des salariés commerciaux, il y a un avenant à leur contrat de travail qui suppose, pour le dire vite, une perte sèche sur le salaire de 30 à 40%. À la suite de ces événements, un nombre de salariés importants refusent cet avenant et ils se retrouvent licenciés. Ils sont 222 à l'époque. Ils s'engagent dans de nombreuses démarches. Rien n'aboutit. face à ce désespoir, face à cet autisme total de la Generalie, 11 salariés à présent se sont engagés depuis mi-février dans une grève de la faim en cascade. Le plus ancien est à son 36e jour de grève de la faim. Le deuxième à 24, le troisième à 17. Et ainsi, chaque jour, d'autres rejoignent la cohorte. Les plus anciens sont très affaiblis, mais tout le monde garde du courage. Et nous sommes nombreux maintenant à connaître cet affreux gérial de la Generalie et son désir à tout prix, quitte à mettre les gens à la rue, de sauvegarder ce qu'ils appellent leur profit et à écraser tout le monde. Donc j'appelle au soutien, rendez-vous sur leur blog, exprimez votre soutien, vous le trouverez sous le titre « Les anciens de GPA » sur Skyrock.
Bonjour Daniel, petite sortie pour nos amis parisiens samedi 19 mars. Dans le cadre du Printemps des Poètes et à l'occasion du centenaire de la mort de Gaston Coutet, la Maison des Métallos Paris 11e propose la projection du film Bernard, ni Dieu, ni chaussette à 16h en présence du réalisateur et de Bernard. Le film sera suivi d'un concert du Petit Crème. On vous y attend nombreux, c'est la dernière projection et débat à Paris. L'entrée est à 5 euros. Bonsoir à tous.
Mon président, je sais que tu le sais, mais je te le redis, comme ça c'est fait. On peut se parler, hein. Il faut à peu près 50 ans pour bien refroidir complètement. Un réacteur de taille moyenne d'une bonne centrale, genre comme les tiennes. Enfin, les nôtres, quoi. Si on stoppait le nucléaire. Si je te dis ça, ce n'est pas pour faire mon aigri ou des discours. Scientifique, n'y pointe jamais, car même toi, tu t'endormirais. Je te propose un truc facile, et après, je te laisse tranquille. C'est dur, mais tu peux le faire. Veux-tu stopper le nucléaire? Ce que tu devrais faire aussi au Congrès des Nations Unies, c'est dire modestement, les gars, y a plus aucune centrale chez moi. Et hop, balayé. Au début, je croyais vraiment contenter quelques mécontents. À force d'écouter tout le monde aussi. Mais j'ai trouvé ça fantastique. And I say no bombes atomiques. Babacouz en Birkenstock, jeunes allemandes non épilées, contre catholiques, pratiquants vendéens et jeunes curés, marchands d'uranium, socialistes, humanistes convaincus, ex-femmes de ZZ Top, anciens barbus. Ils hurlent tous, et l'armement, que va-t-on faire de nos savants? Ah bah oui, ça c'est un problème. Tu leur réponds, vous êtes tarés, vos centrales vont exploser, cancer de la thyroïde. Et puis tu fais semblant de sortir, et tu les laisses réagir. Regarde bien, regarde, regarde. Tu seras étonné de les voir, te courir après dans le couloir. Par deux, trois teigneux dangereux et cinq ou six mecs ennuyeux. Beaucoup qui pensent déjà comme toi se réveilleront et te diront: l'électricité va manquer, là c'est à toi de répliquer. Alors là tu sors ton joker, tu vas dire vraiment tout ce que t'as. Les éoliennes, justement, ça fait du courant gratuitement. Pas de soucis, pas de calcaire, abandonnons le nucléaire, fermons les centrales pour de bon, pour nos enfants, c'était pas bon, et perdons une fois pour toutes la course à l'armement, et toute la terre nous criera victoire, on entrera dans l'histoire, à nous la gloire. Peace and love, mon président.
San Severino dans la basse où j'y suis. Merci à vous toutes et tous pour tous ces messages. Les habitants de Roubaix pourront ce soir voir le film Nucléaire des salariés très exposés qui sera projeté à partir de 19h au théâtre Pierre de Roubaix, 78 boulevard de Belfort. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires et envoyer des messages dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Vous pouvez réécouter cette émission comme toutes les autres sur là-bas.org, là-bas.org. Plus de 1500 émissions sont réécoutables sur ce site, vous le savez. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincez et Martin Guénard, Coyen Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission modeste et géniale, grâce à vous et grâce à eux, assistée d'Agnès Lebotte, grâce à elle aussi, et grâce aussi à Marina Touillès qui attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Je vous le répète au cas où vous l'auriez oublié, réclame.
Vendredi, Euromillions met en jeu la somme colossale de près de 105 millions d'euros. 105 millions ! Oula, c'est du lourd. Du très 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 lourd.
Estimation non garantie des gains à partager au rang 1, voire règlement.
Euromillions ! Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
FDJ.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter, France 3 et France 5, partenaires de l'exposition Brassens sous la liberté à la Cité de la Musique jusqu'au 21 août.
Je vivais à l'écart.
Plongez dans la vie et l'œuvre de Brassens à travers des documents exceptionnels, des photographies rares qui côtoient les dessins fantaisistes et irrévérencieux de Johann Svarr. Brassens sous la liberté à la Cité de la Musique dans les émissions de France Inter et sur France Inter.
À lundi, 15h pour la basse et j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
Peut-on croire au cessez-le-feu annoncé il y a 2 heures par le chef de la diplomatie libyenne en réponse à la menace d'une intervention armée internationale sous l'égide de l'ONU? Le ministre des Affaires étrangères libyen Moussa Koussa a annoncé que le régime mettait fin à toutes les opérations militaires et demandé l'ouverture de canaux de dialogue avec toutes les parties. Mais les diplomaties occidentales sont plus que circonspectes. Pour le premier ministre britannique David Cameron, le colonel Kadhafi sera jugé sur ses actes et non sur ses paroles. Selon le commandant des rebelles à Benghazi, cette annonce de cessez-le-feu est un coup de bluff du régime qui n'a pas de traduction sur le terrain. Écoutez les précisions à Tripoli de Delphine Minoui, l'envoyée spéciale du Figaro.
C'est une déclaration qui est quand même assez contradictoire avec les informations qui nous proviennent ici à Tripoli à l'instant même, puisqu'on nous dit que dans la ville de Misrata, qui se trouve à environ 150 km à l'ouest de Tripoli, eh bien, l'armée serait encore en train de bombarder à l'arme lourde les rebelles qui continuent à être très actifs là-bas. Et puis on a d'autres informations aussi qui nous proviennent de l'ouest, cette fois-ci, avec quelques bastions de la résistance qui continuent à être actifs et qui continuent donc à se confronter à l'armée libyenne et aux forces pro-Kadhafi. Donc reste à voir en effet aujourd'hui quelle forme va prendre ce cessez-le-feu et à quel moment exact il va finalement être appliqué.
En attendant, la coalition emmenée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis se prépare à intervenir. Les meurtres de civils en Libye ne laissent pas d'autre choix à la communauté internationale que de menacer d'une action militaire, vient de dire la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Un sommet se tiendra demain à Paris entre l'Union européenne, l'Union africaine et la Ligue arabe, en présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. De son côté, l'OTAN a décidé d'accélérer la planification militaire en vue d'une éventuelle participation à l'intervention en Libye. Pendant ce temps, au Yémen, l'opposition dénonce un véritable massacre à Sanaa, la capitale. Au moins 41 manifestants ont été tués, plus de 200 blessés. Les partisans du régime et la police ont ouvert le feu sur la foule rassemblée sur la place de l'université pour réclamer le départ du président Ali Abdallah Saleh. C'est la journée la plus sanglante depuis le début de la contestation en janvier. Et le président vient de décréter l'état d'urgence au Yémen. La France demande de nouvelles sanctions des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Loire contre Laurent Gbagbo, qui refuse toujours de céder le pouvoir à son rival Alassane Ouattara. Hier, une attaque à l'arme lourde contre un quartier pro-Ouattara a fait entre 25 et 30 morts à Abidjan. Le gouvernement Gbagbo nie toute implication et continue d'appeler les rebelles, c'est-à-dire les fidèles de Ouattara, à déposer les armes. Au Japon, le scénario du pire semble pour l'instant évité à la centrale de Fukushima, mais les risques d'importants rejets radioactifs restent élevés et la situation est loin d'être stabilisée. La course contre la montre continue pour refroidir les réacteurs. L'alimentation électrique sur le site n'est toujours pas rétablie. Dans un discours télévisé, le Premier ministre japonais Naoto Kan a appelé à la reconstruction du pays. Et puis le retour de Jean-Bertrand Aristide en Haïti. L'ancien président haïtien vient d'atterrir à Port-au-Prince. Il avait été évincé du pouvoir en 2004 et vivait depuis en exil en Afrique du Sud. Ce dimanche auront lieu en Haïti le second tour de l'élection présidentielle. Jean-Bertrand Aristide affirme ne plus vouloir jouer de rôle politique dans son pays et vouloir se consacrer à sa fondation pour l'éducation.
Vendredi à partir de 23h,
Studio Théâtre Spécial Berlin,
Laure Adler.
J'y suis allée, j'ai pu rencontrer Christophe Pellet, jeune auteur de théâtre contemporain, actuellement joué partout à Berlin et dans toutes les scènes françaises, mais aussi Thomas Ostermeyer qui débarque à Paris au Théâtre de Sceaux avec son vénéneux Othello.
Studio Théâtre, ce soir sur France Inter à partir de 23h.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h et tout juste 5 minutes sur France Inter. Vous retrouvez Frédéric L'Odéon et le Carrefour de L'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne. Carrefour de L'Odéon. Bonjour à tous, le monde est en ébullition, oui, si on pouvait revenir en arrière par exemple, en juin de l'année dernière, c'est possible grâce à la musique, puisque le festival de Lugano, mené par Martha Argerich, nous envoie sa dernière livraison, et ce sont des enregistrements en public, cette jolie ville de Suisse au bord du lac, évidemment ça a été un moment délicieux de musique de chambre, il faut en profiter, puisque à travers tous les événements très alarmants, on peut quand même continuer à exister, à réfléchir, à penser à l'humanité, bien sûr, et l'humanité qui nous a précédés aussi, comme Robert Schumann, par exemple, qui a écrit une sonate pour violon et piano. En 1851, il était à Düsseldorf et il avait aussi des raisons d'être en colère, une petite colère, évidemment, ça n'était pas à l'échelle planétaire, mais simplement, il était fâché contre le bourgmestre de la ville, contre le maire, tout simplement. Il n'avait pas de colère contre le conseiller général, ça n'existait pas encore, je rappelle donc qu'il y a les élections dimanche et le dimanche suivant, pour élire les conseillers, et donc pas de grand concert de Radio France en raison de cet événement politique. Mais voici cette colère exprimée en musique, celle de Robert Schumann contre son maire, Lebhaft, de la première sonate pour violon et piano.